Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Nous sommes très heureux de recevoir Marie-Agnès Gillot. Elle vient nous présenter Scène Libre, cette soirée exceptionnelle et inédite à la scène musicale. Et vous allez l'entendre, elle aussi est exceptionnelle. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants, évidemment. Et puis, dans les indispensables, on va faire plaisir à tous les gamers, mais pas seulement, en vous présentant le jeu Ghost Recon Breakpoint, pardon pour l'accent, et puis un livre étonnant, Mécanique de la chute, un grand roman contemporain. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel.
Avec vous, c'est le journal de la culture, journal qui débute par une sortie d'album.
Vous avez reconnu sa voix?
Oui, mais oui, c'est Miko.
Mais
non, c'est Mika.
C'est son cousin.
C'est la chanson Ice Cream, j'étais pas loin.
C'est bien, Philippe, ouais. C'est bien son...
Humour.
Son oui. grand retour, ça commence déjà. Une ouais. phrase, humour, attention, ouais. son grand retour parce que ça
Je fait m'arrête là, j'ai compris
ans.
Le message.
Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas sorti de disque. Donc son nouvel album sort aujourd'hui, My Name is Michael Holdbrook, qu'il prépare donc depuis 2 ans, qu'il a écrit pendant plusieurs semaines avec son équipe dans une grande maison. Un album très intime. Il parle de l'accident de sa sœur, de sa maman, il parle de lui aussi. Alors Mika balaye tous les styles rétro, pop, son un peu vintage. Mika aussi qui a quitté l'émission The Voice pour se consacrer aussi à sa grande tournée mondiale. On sait que tous ses concerts sont de véritables shows et il passera en France dans plusieurs villes, dont le 22 décembre à l'Accor Hotel Arena.
Et puis certains ne vont pas beaucoup dormir ce week-end parce que c'est la nuit blanche.
Oui, c'est au choix. Vous pouvez ne pas la faire aussi. Et si c'est le cas, posez votre lundi pour ceux qui travaillent.
Ah, ok, je le pose. Salut.
C'est la 18e édition. Ça se passe à Paris, un événement culturel qui propose des installations et des performances très spectaculaires. La grande parade, place de la Concorde, un concert, place de la Bastille, des DJ aussi, des artistes promeneurs en mouvement dans la ville, une grande traversée en marchant ou en courant, longue de 8 km. Et puis le périphérique, transformé en vélodrome lumineux, sur plus d'un kilomètre, le boulevard périphérique sera fermé à la circulation de 19h à 6h. Et vous pourrez donc circuler à vélo. Et puis surtout, de nombreux... Oui Philippe ?
Non, je souris parce que s'il est fermé sur un kilomètre, c'est comme s'il était fermé partout, parce que vu que c'est un mouvement circulaire, ça fout un bordel pas possible.
Oui, mais je déguise cette info, vous avez ouais. vu, pour n'inquiéter personne. Et puis surtout, de nombreux musées ouverts toute la nuit, dont aussi la Philharmonie de Paris, ouverte de 18h à 6h du matin avec différentes thématiques.
Et puis ça nous manquait, nous avons des nouvelles de Britney Spears.
Je sais que vous les attendiez, Philippe, ces nouvelles. Et oui, mais Céline oui. aussi d'ailleurs. Hein.
Ouais. Patiemment.
Alors, Céline, elle attend les heures de fermeture du périph.
En écoutant du Britney Spears. Ouais. Alors, cela fait presque un an que nous entendons tout sur Britney. Dépression, hospitalisation, psychiatrie. Ses oui. fans avaient lancé le hashtag Free Britney en affirmant qu'elle était retenue contre son gré. Elle a connu des problèmes juridiques. Elle a dû annuler son concert car son père était gravement malade. Pardon. Bref, c'était trop. Et Britney a souhaité rassurer ses fans sur son compte Instagram en affirmant avec humour déjà « J'espère que vous ne m'avez pas oublié, puis je profite de cette transition dans ma vie pour me concentrer sur ce que je veux vraiment. Je travaille depuis que j'ai 8 ans dans le monde de la musique. Parfois, il est bon de s'arrêter et de réfléchir. Vous me manquez tous. J'ai vraiment les meilleurs fans du monde. Bref, partir pour mieux revenir, on verra.
On verra. Nous sommes le 4 octobre, mais Hélène, c'est bientôt Noël.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring.
Hier a eu lieu la 7e cérémonie des étoiles du jouet qui récompense les jouets et jeux les plus innovants en prévision de Noël. 76 médias spécialisés, 220 familles ont voté aussi pour élire 12 lauréats parmi 49 sélectionnés. Alors on va les dévoiler, ces gagnants. Oui. Cubi, l'ours curieux et vivant avec 100 combinaisons de sons et de mouvements avec ses yeux, nez, bouche. L'ours parle, réagit, ronronne, roucoule.
Ah oui.
Des jeux de construction,
roucoule. C'est l'ours pigeon.
C'est ça.
Non, tu m'étonnes que c'est innovant.
Est-ce qu'on peut le voir sur le périph' ou pas? Non, parce que comme j'y serais.
Est-ce
non.
que vous pouvez faire le bruit? Je ne sais pas le faire, moi.
Grou, grou.
Voilà, merci. des jeux de construction. Il est possible voilà, de rassembler des figures, d'animaux, d'objets du quotidien. Et il y a aussi des escape games, des énigmes, des objets high-tech avec des jeux virtuels. Et puis un jardin zen et un coffret de création en diamant. Bref, les listes pour les Pères Noël risquent d'être très prometteuses, je pense.
Et peut-être même très coûteuses.
Aussi.
Et puis pour terminer, un pionnier du rock qui va être sur Europe 1 aujourd'hui.
The Animals, et oui, et son chanteur leader, Éric Burdon, sera l'invité exceptionnel d'Émilie Mazoyer à 20h sur Europe 1.
Et là, ce qu'on entend, c'est évidemment l'original du pénitencier de Johnny.
Évidemment.
C'était les Animals.
50 ans de carrière, il fera ses adieux à la scène avec un dernier concert à l'Olympia le 8 octobre prochain. Éric Burdon qui, aujourd'hui, joue avec de jeunes musiciens recrutés sur Internet.
Ah, vous dites Éric Burdon, vous ?
Burdon.
Moi, je dis Éric Burdon, mais c'est
alors,
pareil.
Écoutez, je vais balancer parce que j'ai demandé à Cyril Lacarrière comment prononcer, il m'a dit Burdon.
Vous savez comment on appelle ça ? Vous savez comment on appelle ça ?
Allez-y, dites-moi.
On appelle ça du bizutage et vous êtes tombé dans le panneau. Hélène Manarino, vous revenez avec nous pour votre portrait inattendu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et Philippe, on accueille Marie-Agnès Gillot.
Bonjour Marie-Agnès Gillot.
Bonjour.
Vous êtes danseuse étoile, vous avez quitté l'Opéra de Paris il y a un peu plus d'un an, vous n'avez pas été virée, mais atteinte par la limite d'âge de 42 ans. mais vous êtes loin d'être une retraitée. Rien que cette saison à la scène musicale à Paris, vous allez occuper l'espace du 14 octobre au 20 juin avec pas moins de 6 spectacles différents, 6 soirs exceptionnels. Il y aura du classique, du moins classique, du totalement déroutant. On commence par quoi ? On les fait dans l'ordre ?
Bien sûr, ouais.
Alors, le 14 octobre, dans 10 jours, la soirée va s'appeler Danse-la, chante-la. On verra quoi et qui.
Alors c'est une soirée que j'ai voulu dédier au Resto du Cœur. Donc j'ai invité mes copains, mes amis, les gens que j'admire, qui m'ont aidé toute ma vie à supporter mes maux, MAUX.
Ouais.
Et donc voilà, du coup je fais un parcours autobiographique avec des chansons. Avec de grands artistes.
Attendez, pardon de cette question, parce que l'enchaînement que vous avez fait, dire que les Restos du Cœur vous ont aidé à supporter vos maux, vous n'aviez pas dîné et déjeuné au Resto du Cœur.
Non, non, ce sont les artistes.
D'accord. Alors, je vais les citer. Il y aura Carla Bruni, Christophe Willem, Jennifer, Amel Bent, Joey Starr, Dany. Ils vont chanter, ils vont danser. Qu'est-ce qui va se passer sur scène ?
Ah non, eux, ils chantent. Moi, j'interprète.
D'accord. Le 22 novembre, ça s'appelle De Paris à Beyrouth. Là, c'est beaucoup plus pointu. Un solo de danse, The Dress, sur du Dvorak et sur du Satie. Là, c'est presque du classique.
Alors, non, c'est aussi un parcours. Mais la première pièce, en fait, c'est une chorégraphe libanaise qui n'est pas du tout encore connue en France, qui s'appelle Nana Kano. Et donc, il y aura une scénographie où j'ai une robe qui fait toute la salle, toute la scène, en fait.
Ouais. Ah bon ?
Ouais, rouge. Parce que ça me va bien le rouge.
Ouais,
j'ai fait mes avions rouges.
Ouais,
j'ai commencé en rouge.
Oui, mais comment on fait pour bouger si elle fait toute la...
Ben vous verrez.
Donc elle a quand même bougé un peu. Rassurez-nous.
Bah, je ne peux pas vous donner la première image parce que je pense que vous allez être choqués si je vous dis comment je commence.
Ah bah allez-y, alors là on a trop envie d'entendre.
Upside down, vous connaissez ?
Bien sûr, la tête en bas, les pieds en l'air.
Ouais,
dans la robe.
Ouais, on voit que mes jambes.
Waouh, ça fait penser à la chanson de Souchon, Maximal, sous les jupes des filles. 13 et 14 mars, c'est encore plus étonnant, c'est de la danse, mais le titre a trait à la peinture, de Rothko à Cocteau.
Alors ça, ce sont des pièces que j'ai voulu reprendre, parce que ce sont un peu mes coups de cœur. C'est Le jeune homme et la mort, de Roland Petit, que j'ai dansé et que j'ai filmé, donc tout le monde ça peut le voir. Mais là, je vais le redanser avec un jeune homme. Vraiment. Puisque maintenant, si je reprenais mon ancien partenaire, on serait un peu vieux.
Ah oui. Non, vous êtes pas si vieux.
Le jeune homme et la mort, ça s'appelle.
Ouais, c'est vrai.
Et puis Rothko, en fait, c'est le dernier solo que Caroline Carlson s'est créé. Et je l'ai d'abord dansé à la Menil Collection, donc à Houston, où il y a les plus grands Rothko. Et c'est la première fois que je vais le redonner en France, en fait.
Ce sont des
pièces qui me tiennent à cœur.
Les Rothko, pour qui
et
peut...
Et à corps, ceux-là.
Pour les visualiser, les Rothko, ce sont les grands tableaux avec des aplats de couleurs horizontaux, très, très, très...
Il faut se concentrer et on voit des couleurs, en fait.
Ouais.
Il y a la chapelle aussi, qui est à Houston, où il y a tous les Rothko.
Le 20 avril, ça s'appelle La boxeuse amoureuse. On va entendre quelques notes, puisqu'avec Roche Dizem, vous aviez joué dans le clip de la chanson d'Arthur Ashe qui porte ce nom, La boxeuse amoureuse. Petit rappel.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse.
Alors raconter, ça vous fait sourire?
Ouais, non, je me souviens des mouvements, en fait, je reprends les...
Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y aura Arthur Hage qui sera là.
Oui.
Vous serez là?
Oui.
Il y aura Roche Dizem ou pas du tout?
Non, il y aura Souleymane Sissoko.
Ouais. Et on verra quoi? Vous allez danser avec Arthur Hage au piano, qu'est-ce qui va se passer?
Je pense que ça va être un peu plus subtil que ça, mais il y aura aussi... Pardon.
C'est pas grave, allez-y. J'ai eu un compliment dans la première heure, je peux me prendre un tacle dans la seconde, vous savez. Je vais m'en remettre, il y a le week-end qui arrive, tout va bien.
Oh, je suis désolée.
Il n'y a pas de problème.
Je m'excuse.
Mais non, au contraire. Allez-y, racontez ce que vous allez faire.
Non, en fait, ce n'est pas encore créé, mais
d'accord.
J'aimerais bien vraiment créer un vrai match de boxe, mais vraiment en chorégraphie.
Ah, vous avez raison, là c'était subtil, vraiment.
Complètement, en fait, faux, mais pour le réel. Comme, c'est mon art de... Ouais. C'est mon art de m'identifier à du réel alors que c'est faux.
Vous savez quoi? Il y a encore un programme totalement mystérieux et vous faites un truc absolument décalé pour la fête de la musique. Vous restez avec nous, Agnès Gillot, on en parle juste après.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est leur Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Marie-Agnès Gillot, je vous présente Hélène Manarino.
Enchantée.
Enchantée.
Vous avez déjà entendu l'émission?
Oui.
Eh bien, c'est votre tour. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Marie-Agnès Gillot. Quelles sont les choses que l'on ne connaît pas encore sur vous? Il y en a. Alors, je vais me permettre tout d'abord de tenter d'être une bonne scénographe comme vous et de vous donner tout d'abord une vue d'ensemble de votre personnalité. Marie-Agnès Gillot, vous êtes un véritable caméléon. Paradoxal, souvent, rien ne vous fait peur, très entouré par vos amis qui veillent sur vous. Vous aimez aussi la solitude, vous êtes très drôle, cash et surtout, comme le nom de ce portrait, totalement inattendu. Si on n'a pas de nouvelles de vous pendant 15 jours, on ne sait pas comment on va vous retrouver, avec quel projet, quelle lubie et quelle nouvelle passion, sachant que vous n'avez peur de rien. Si vous rencontrez quelqu'un qui fait du parachute, par exemple, vous allez en faire. Quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine, vous vous lancez dans le grand bain. Bref, Marie-Agnès Gillot, vous êtes inépuisable. Et on va rentrer dans le vif du sujet en détaillant les différents tableaux d'une partie du spectacle de votre vie. Que l'on peut appeler celui de la nature et du sans limite aussi, vous allez comprendre. Il y a quelques années, lors d'un déjeuner avec une personne très importante pour vous, vous décidez de faire les courses ensemble pour préparer votre repas. Je rappelle que vous êtes deux à ce déjeuner. Et vous avez décidé de vous arrêter dans tous les commerces de nourriture et vous aviez 3 kilos dans chaque sac. La personne qui est avec vous ne comprenait pas. La finalité, vous avez voulu vous poser dans un square, sur un banc, déballer votre nourriture et démarrer un cours pendant plusieurs heures sur les moineaux.
Non.
Vous connaissez tout.
C'est vrai.
Des moineaux. Cela grâce à votre grand-père qui vous a appris à observer la nature.
Marie-Agnès Gillot est morte de rire.
Ça ne tombait pas.
Alors, vous pouvez donc nous expliquer la différence le matin entre un moineau mâle et un moineau femelle, par exemple. Vous savez.
Vous voyez, ça se voit très bien. Il y en a un marron et il y en a un qui a un masque noir avec des ailes noires. Le mâle est toujours plus beau chez les oiseaux. Les femelles sont un peu moins formelles.
Passons à l'autre tableau nommé tout simplement les 4 P. Parole, pointe, plume, pinceau. Le langage. Votre langage, il doit être impeccable. D'ailleurs, dès que vous dites un gros mot, c'est 2 euros. Donc pour remplacer une insulte, vous dites flûtoche. Pas mal. Les pointes de danseuse classique, évidemment, mais aussi votre talent pour le dessin et la peinture et aussi l'écriture, car vous écrivez des poèmes. Vous enchaînez toutes ces passions avec le même engouement. J'aurais pu rajouter un thé, mais ça ne marchait pas avec mon petit propos. Mais il y a aussi le tricot et la cuisine. Enfin, la soupe de champignons, surtout. Alors pour la peinture, vous savez reconnaître ce qui est facile ou pas. La première fois que vous êtes allé à une expo vente de tableaux à Drouot à Paris, vous êtes tombé sur une aquarelle de Lapic. La salle est remplie. Vous vous pointez donc devant cette œuvre et vous balancez assez fort. Ça là, ça, mais moi je t'en fais 10 comme ça.
Non.
Évidemment.
Vous avez vraiment dit ça? Pendant les enchères? Il a dit quoi le commissaire priseur?
Il s'est marré.
Vous avez eu de la chance quand même.
Alors, il fallait voir le tableau.
Vous en faites 10 comme ça.
Votre goût pour la peinture et le dessin s'exprime aussi dans votre maison familiale à Houlgat. Alors dans cette maison, il y a une cour intérieure où il y a un mur réservé aux enfants pour qu'ils puissent dessiner dessus et laisser une trace.
Mais comment savez-vous tout ça?
Et un mur beaucoup squatté par les adultes aussi. Alors Marie-Agnès Gillot, on va faire un petit interlude musique. En ce moment, vous êtes la spécialiste des comptines pour enfants. Bon. Mais surtout, il y a cette chanson qui vous donne l'envie de vous envoler.
Time of my life, I never felt this way before.
C'est quoi ça, Marie-Agnès?
C'est Dirty Dancing.
Et vous adorez. Toujours en rapport avec la danse.
C'est vrai.
Et ça vous plaît?
Bah oui, c'était mon film culte quand j'étais petite. On laisse pas bébé dans un coin.
Exactement. Et il y a cette passion au karaoké. Bon, j'ai l'impression que tout le monde aime ça. Mais Marie-Agnès Gillot, vous êtes avant tout une bosseuse qui ne fait presque jamais comme tout le monde. Lorsque vous deviez préparer le Lac des Cygnes, au lieu de travailler avec les répétiteurs prévus, vous êtes allée travailler au Portugal pendant 10 jours pour travailler avec une étoile en Espagne, pardon, pendant 10 jours. Ensuite, le dernier tableau de votre vie, c'est bien évidemment celui qui vous correspond le plus, la mise en scène et les cours. À Pont-l'Abbé, vous avez donné des cours de danse et vous connaissez toutes les variations de danse classique. Alors vous allez me dire, c'est normal, mais vous pouvez donner cours à des petits de 5 ans, comme à des ballerines, vous pouvez faire travailler les garçons, vous montrez tout, rien ne vous échappe, et c'est très rare pour être souligné. Et puis il y a aussi votre vision de la scène, votre mise en scène, et la chose peut-être la plus mignonne, c'est qu'à l'école de votre petit garçon, on vous demandait de monter le spectacle de fin d'année, ce que vous faites évidemment, et c'est tout aussi important que votre spectacle à la scène musicale. Vous avez aussi monté un spectacle du cabaret Madame Arthur à Paris, autour de Zizi Jeanmaire, et vous avez assuré la mise en scène et vous vous êtes déguisé d'ailleurs en Monsieur Loyal.
Ah,
alors, peut-être en tableau final, c'est sûrement ce jour à l'Opéra Garnier où vous avez dansé sur le lac présent en dessous de l'opéra. Eh bien oui, il y a un lac avec 2 mètres d'eau à peu près. Vous dansez donc sur scène, en dessous. Et c'est peut-être dans votre danse qu'il n'y a aucun paradoxe.
Bravo, bravo Hélène, bravo. Merci beaucoup. Vous vous êtes reconnue?
Oui, totalement.
Hein, mais les moineaux, racontez-moi ça. Les moineaux, comment on peut se passionner pour les moineaux?
Mais moi, je suis une férue d'oiseaux, donc voilà. Je vous dis ce qui passe devant vous. Je reconnais les oiseaux.
Mais vous êtes vraiment allée dans un square avec 3 kilos de bouffe pour les moineaux et leur
donner...
Non,
mais je faisais mes courses. Ouais. Je faisais mes courses, donc voilà.
Non, je ne vous le reproche pas, mais
moi, j'aime bien manger, donc voilà, je fais mes courses, quoi.
Vous savez que Amélie Nothomb a une passion pour les pigeons, qu'elle considère comme des êtres supérieurs. À nous, en tout cas, sans aucun doute. Elle adore les pigeons.
C'est Bernard Poirette qui vient dans ce studio qui prend la parole. On reconnaît bien le style de Poirette. Ni bonjour, ni merde. Le mec, il arrive et il parle.
Bonjour, finalement.
Bernard, vous restez avec nous, Marie-Agnès aussi. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Dans un instant, nos indispensables du jour, on parlera jeux vidéo avec Clément Le Saffre, d'un livre avec Bernard Poirette, toujours avec notre invitée, la danseuse et chorégraphe Marie-Agnès Gillot.
Marie-Agnès Gillot qui est retraitée, mais retraitée quand on est danseuse étoile, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 42 ans, donc c'est très très jeune. C'est ce qui est arrivé à Bernard Poirette il y a 4 ans seulement. Vous dansez toujours. Est-ce que vous prenez encore des cours de danse? Est-ce que vous apprenez encore des choses? Oui,
bien sûr.
Comment ça, bien sûr?
Je peux pas arrêter l'entraînement, je suis obligée de m'entraîner.
Mais est-ce que vous avez besoin d'un professeur? Je veux dire, ce qui m'a frappé. Moi, j'imagine que quand on est danseuse étoile, il n'y a pas plus haut. C'est comme si Cédric Villani allait prendre des cours de maths, non?
Il y a toujours
vous n'avez pas tout le bagage, vous apprenez encore des choses sans faire la fausse modeste.
Non,
vous apprenez encore des choses?
Il y a toujours des subtilités, une musicalité, un truc que je n'ai peut-être pas encore compris ou vraiment assimilé dans mon corps. Alors je ne vous dis pas que tous les professeurs vont m'apprendre. Hein.
Ouais.
Mais certains.
Bim, ceux qui vous apprennent rien, ils nous écoutent. Vous pouvez rentrer chez vous, vous pouvez vous recoucher. Mais vous prenez encore des cours.
Ouais.
On vous a proposé plusieurs fois des rôles au cinéma. Pourquoi vous avez toujours refusé? Les gros rôles?
Ça ne me convenait pas vraiment, en fait. Je ne pense pas apparaître dans le milieu public en faisant une pute ou un homicide. Je devais tuer un enfant. Je ne sais plus ce que... Enfin, c'était des rôles qui ne me convenaient pas, en fait. Je préférais commencer avec Pierre Richard dans une comédie.
Ouais. Vous êtes une grande lectrice?
Oui, ça m'arrive.
Ah oui, ça vous arrive?
En ce moment.
Parce que vous n'avez pas le temps.
Non.
700 pages, c'est fait beaucoup, non?
Oh bah ça dépend comment c'est écrit.
Et ça dépend comment c'est raconté. Bernard Poirette avec nous. Mécanique de la chute, juste enchaînement de Seth Greenland. 700 pages. Racontez pourquoi ce livre vous a passionné.
Alors, c'est paru chez Liana Levy. Vous allez me dire, à chaque fois que je viens chez vous, c'est pour des pavés, puisque celui d'avant faisait 960 pages.
Oui, mais
pages.
Parce que vous ne pouvez pas le faire chez vous. Donc, je suis ravi de vous accueillir.
Parce qu'il me faut 3 minutes et ouais. Je ne les ai pas le week-end. Alors, je viens vous en parler là. Écoutez, c'est un livre magnifique sur l'Amérique d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas l'Amérique des cols blancs, quoique. En fait, ça se passe chez les riches milliardaires new-yorkais. En l'occurrence, le héros est juif, c'est Jay Gladstone. En fait, c'est l'américain type issu du monde ouvrier et puis qui réussit tout seul avec ses talents, avec sa chance, avec son entregent également à devenir un milliardaire de l'immobilier à New York. Voilà. Et donc, ce gars-là a
son
une équipe de basket.
Gilo.
Non, pas ouais. Son entregent, mais son entregent. Et donc, il a une équipe de basket avec un basketteur vedette qui s'appelle Jay et qui est en fin de carrière, dirons-nous. Sa problématique est de savoir s'il doit se séparer de ce gars-là, quoi, éventuellement vendre son équipe de basket aussi. Et le problème est le suivant, c'est que ce gars-là, le basketteur en question, qui est un type extrêmement sympathique et extrêmement compétent dans ce qu'il fait, eh bien, couche avec la femme du propriétaire de l'équipe.
Donc il y a de l'entrejambe.
Qui est Nicole. Là, maintenant, il y a de l'entrejambe. Elle s'appelle Nicole, elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Voilà, elle est presbytérienne américaine, etc. Et là se joue une affaire familiale et une affaire sociale absolument extraordinaire, puisqu'il les surprend au lit, il se venge en écrasant son basketteur vedette qui finit par mourir à l'hôpital. Et donc là se déclenche la mécanique judiciaire américaine. Donc cette histoire, mécanique de la chute, raconte la montée en puissance d'une famille et l'effondrement du patriarche de cette famille qui commet l'erreur funeste de se venger alors qu'il n'aurait pas dû, il aurait dû faire contre et dire à sa femme, mais pourquoi est-ce que tu me trompes, c'est pas bien, surtout avec mon basketteur vedette, etc. Ça montre une Amérique d'aujourd'hui absolument incroyable, corsetée dans des problématiques morales, religieuses, politiques terribles. En plus, ce malheureux Jay Gladstone, qui au fond est un type intéressant et pas un salaud. C'est pas un salaud. Il tombe sous la coupe d'une procureure de la République, Christine Lupo, qui veut devenir gouverneur de l'État de New York et qui a décidé de se taper un riche, de se faire un riche. Ouais. Pas se taper un riche.
J'ai compris.
De se le faire. Qu'est-ce qu'il y a dans va pas s'en sortir.
Qu'est-ce qu'il y a, Bernard, dans l'écriture qui vous a passionné au point de lire ça, de dévorer 700 pages ?
Écoutez, c'est un livre très bien écrit, excessivement drôle par moments, notamment quand Nicole, la femme donc de Jay Gladstone, est confrontée à sa famille juive. Elle s'en fout des traditions juives, elle essaye de faire au mieux. Mais alors, il y a des moments où elle essaye de préparer les repas traditionnels. C'est très codé, c'est très codifié, tout ça. C'est à se rouler par terre. C'est remarquablement écrit, c'est très bien enlevé. Ça se lit très bien, vraiment. Il ne faut pas avoir peur des 700 pages. Et puis, c'est une image de l'Amérique d'aujourd'hui qui est assez éblouissante. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au Bûcher des vanités de Tom Wolfe.
Ah oui, c'est
par
génial.
Exemple, qui était un très très bon livre. Alors certains diront que c'est un peu en deçà en termes d'écriture. Moi j'ai trouvé ça très très bien. Ce gars-là est scénariste à Hollywood, comme beaucoup, et il est passé au roman. Ça s'appelle Mécanique de la chute, donc ça vient de paraître il y a 3 semaines chez Liana Levy, de Seth Greenland, et c'est un super livre. Voilà,
merci.
Je vous le conseille vivement.
Ça vous a plu, Marie-Agnès ?
J'ai adoré.
C'est très bien. Ouais.
Le récit ou le livre ? Parce que les 700 pages.
Le récit.
Pages... Ouais.
Bah,
voilà. Le récit. Il s'appelle Bernard Poiret.
Mais moi ça me fait pas peur les pavés. Hein.
C'est vrai. Il faut pas. Si le livre est bon, ça passe comme une lettre à la poste.
Le dernier pavé que vous y avez lu, parce que vous m'avez dit, j'ai pas le temps de lire. Le dernier pavé que vous y avez lu, c'était quoi, Marianne Gillot ?
Oh là là, c'était, je crois que c'était le yin et un truc sur la Chine, un truc.
D'accord, le yin et le yang. Oh,
non,
d'accord.
Non, ouais, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était, mais.
Moi, j'ai essayé de le lire, mais je me suis arrêté au yin.
Ouais.
Non, je plaisante. Vous restez avec nous à parler de jeux vidéo dans un tout autre genre, Culture Média.
Les jeux vidéo.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot qui est notre invitée ce matin dans Culture Média. Mais comme promis, on va parler jeux vidéo tout de suite avec Clément Le Saffre.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Donc on va parler de jeux vidéo, vous êtes le gamer de l'équipe. De quel jeu allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bah, pas n'importe lequel Philippe, sachez que c'est le jeu de cette fin d'année, celui que les amateurs vont s'arracher pour Noël. Il s'appelle Ghost Recon Breakpoint. Alors son nom ne l'indique pas, mais c'est un jeu 100% français. Il a été fait par Ubisoft. Et surtout, ça ne parle pas de fantôme. Hein. Ghost, ça ne veut pas dire fantôme,
ah bon,
vous allez voir. Non, le jeu est sorti ce matin, c'est le 11e de la série Ghost Recon. Alors ça vous parle peut-être, c'est une série qui a été créée en 2001. Le dernier jeu, il s'est écoulé à 15 millions d'exemplaires dans le monde, c'est pas mal. Alors la recette, quelle est-elle ? Surtout, elle ne change pas depuis à peu près 10 ans. C'est un mélange de jeux de guerre et d'infiltration qui nous met dans la peau d'un soldat des forces spéciales. Alors comme c'est plutôt bien fait, c'est très réaliste et pour ça, il a quand même fallu 2 ans et 1000 personnes chez Ubisoft Paris pour accoucher du plus gros jeu jamais développé en Europe. Et le résultat, vous allez voir, est assez spectaculaire.
J'ai prêté allégeance au drapeau américain et aux valeurs qu'il était supposé représenter. Mais nous sommes devenus une nation décadente, dirigée par des imbéciles. Tiraillés de toutes parts, libérés par des mensonges, unis dans la suffisance.
Oh, le son est incroyable, il y a des basses. Hein. On se croirait dans la bande-annonce d'un film, donc il y a une histoire.
Absolument.
Racontez-nous l'histoire,
alors,
Clément.
Ça se passe en 2025, donc un futur assez proche, assez réaliste pour nous. C'est sur Oroa, une île fictive du Pacifique Sud. Jay Scale, c'est un gourou des nouvelles technologies, un peu à la Mark Zuckerberg, si vous voulez. Il y a créé une société utopique, son monde idéal. Mais il s'est fait renverser par Cole Walker, c'est un déserteur de l'armée américaine. Il est en quête de vengeance parce qu'il a été trahi par ses supérieurs. Et il en profite pour prendre le contrôle de l'île. Alors pour le neutraliser, on envoie donc les Ghosts, les fantômes. C'est une unité spéciale de l'armée américaine, spécialisée dans l'infiltration derrière les lignes ennemies. Donc on incarne nous le chef de cette escouade, il s'appelle, il se surnomme Nomade. Alors donc, on va y aller, pistolet à la main, le couteau dans la botte, les rations de survie dans le sac à dos. Il va falloir se sortir de ce chaos qui règne sur l'île.
Mais là, arrêtez-moi si je me trompe Clément, mais des jeux de guerre comme ça, il y en a plein. Qu'est-ce que celui-ci a de spécial qui vous intéresse à ce point ce matin ?
Eh bien en fait, il se déroule dans un monde complètement ouvert, c'est-à-dire un terrain qui est libre et qu'on peut arpenter à tout moment quand on le souhaite. Alors d'habitude, les jeux de tir, hein, vous les connaissez, c'est Call of Duty par exemple, ouais. C'est Battlefield. C'est des endroits clos, des terrains, ce qu'on appelle des maps.
Battlefield, comme son nom l'indique.
Exactement,
on est sur un
terrain de bataille. Exactement, il y a quelques bâtiments ici et là, mais on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on fait dans Ghost Recon Breakpoint. Au contraire, il y a des millions de choses à faire et surtout à n'importe quel moment. Donc il y a l'histoire principale, bien sûr, avec des missions qu'on déroule. Il y a une enquête à mener pour savoir ce qui s'est passé sur cette île. Mais il y a aussi tout un tas de missions secondaires. On peut rendre des services à des personnages secondaires, aller les voir. Ils vous disent bah, « j'ai besoin de telle arme, j'ai besoin de ci », on les aide. Il y a aussi des défis qu'on peut faire seul ou avec un ami, c'est aussi le vrai intérêt du jeu. On peut y jouer à deux, soit sur son canapé, soit en ligne. Ouais. Donc offrir le choix aux joueurs, c'est vraiment l'objectif qui était celui des équipes, et notamment celui de Benoît Martinez, qui est le directeur technique et artistique de Ghost Recon Breakpoint.
Le monde ouvert donne comme ça aux joueurs la liberté, la latitude d'aller se construire son aventure à son propre rythme, de n'être pas tout le temps dans l'action, mais aussi d'avoir des moments où le joueur peut choisir lui-même de faire retomber un petit peu la pression, parce qu'il va choisir de traverser une forêt extrêmement dense, d'utiliser un véhicule ou de survoler les paysages en avion ou avec son parapente.
Benoît Martinez, qui parle français, parce que je précise, Ubisoft, c'est assez rare pour être signalé, est une entreprise française.
Absolument, c'est un géant des jeux vidéo et le jeu a été développé dans ses studios français, parce qu'il y a des studios aussi au Canada, etc. Mais celui-là a été fait à Paris. Et donc pour rendre tout ça possible, hein, vous avez entendu cet univers assez vaste, il a donc fallu créer quelque chose de très réaliste pour que on se sente en fait finalement immergé, qu'on ait l'impression d'être dans la peau des forces spéciales. Et c'est ce qui fait que Ghost Recon, moi, il m'a intéressé parce que c'est un jeu qui est hyper cinématographique. Il n'a pas grand-chose à envier à un film.
Comment ça ?
Eh bien, tout fait penser au cinéma dans ce jeu. Les décors sont hyper détaillés, hyper fouillés. Il y a des jeux de lumière. Par exemple, on voit le soleil qui perce à travers le feuillage. Il y a un cycle jour-nuit. Et puis, il y a cette action hein, vraiment qu'on croirait filmée, caméra à l'épaule. On est vraiment derrière le personnage. On le voit qui brandit son arme,
etc. Ah oui,
comme
si quelqu'un nous filmait.
Exactement. C'est très, vraiment, on dirait un film d'action par moment. Très hollywoodien, mais à la fois très crédible. Parce que pour restituer en fait, les missions d'infiltration des forces spéciales, Ubisoft a fait appel à un ancien membre justement des troupes d'élite américaines. Il s'appelle Émile Daubon. Alors, ça ne fait pas très américain, mais je vous assure, il est américain.
Émile, il n'y a pas de E, donc ça va.
Il n'y a pas de E.
Et puis Daubon, on prononce.
Exactement.
Donc ça va, ça fait américain.
Moi, je l'ai rencontré donc, aux États-Unis. Alors, c'est une vraie mort à glace. Moi, j'ai failli laisser ma main en lui serrant la sienne. Et aujourd'hui, il faut savoir que donc, ce monsieur, donc, il a fait partie des Bérets Verts pendant très longtemps. Aujourd'hui, il officie comme consultant pour le cinéma et la télé. Écoutez ce qu'il a dit, enfin ce qu'il m'a raconté en gros, ce qu'il a apporté aux développeurs.
J'ai aidé pour que les mouvements des soldats soient plus réalistes, qu'ils aient l'air humains. Ce sont des détails, la façon de manier des armes, de les recharger, de passer d'un fusil à un autre. C'est plus réel, les personnages ont l'air de ressentir le stress d'un soldat en zone de combat.
Donc c'est hyper réaliste et la touche finale à cette immersion quasi cinématographique, c'est John Bernthal. Alors c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose.
Non.
C'est un acteur, un vrai de vrai, en chair et en os lui. Il a notamment incarné des personnages au cinéma, on l'a vu chez Scorsese notamment, mais aussi et surtout à la télé dans Walking Dead, la série de zombies, et la série Marvel The Punisher où il jouait déjà un soldat hyper entraîné. Cette fois, c'est pareil, il joue dans un jeu vidéo, il incarne le méchant de Ghost Recon Breakpoint. Et en fait, il faut savoir qu'il a joué les scènes donc avec une combinaison qui est bardée de capteurs, vous savez, pour qu'on puisse après reproduire le moindre de ses mouvements jusqu'aux lèvres sur les dialogues. Donc c'est pas du cinéma, le jeu vidéo, mais pas loin.
Ça se joue sur quoi, Ghost Recon ?
Ça se joue sur PS4, Xbox, PC, ça coûte 60€, on le trouve partout.
Marine Gillot, vous jouez aux jeux vidéo ?
Non, pas moi, mais mon petit garçon, oui.
Ah bon, il a quel âge ?
Il a 5 ans et demi.
Oula, 5 ans et demi, il
Alors
joue aux jeux vidéo.
On va pas lui recommander Ghost Recon.
Non, non,
encore,
il joue sur quoi à quel jeu on joue à 5 ans et demi ?
Il serait capable de me demander ça. Hein.
C'est vrai ?
Il joue sur quoi ? Ils sont très en avance, les enfants.
Il joue sur quoi ?
Sur Mario, lui, sur la Switch, là.
C'est aussi bien.
Ouais.
C'est aussi bien. Et il vous bat déjà ?
Oh, j'essaye même pas. Non, Let's Dance, je gagne, attends.
Vous connaissez Let's Dance ?
Alors, moi je connais Just Dance, qui est développé par Ubisoft aussi. C'est aussi un jeu français.
Formidable. Tout ça reste en France et nous on reste ici dans les studios d'Europe 1 avec Marine Asilo. Merci beaucoup, Clément.
Pour la dernière partie de Culture Média, c'est juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
Et c'est la dernière partie de Culture Média. On la passe avec notre invitée, la danseuse et chorégraphe Marie-Agnès Gillot, Philippe.
Et oui, vous allez occuper la scène musicale, on va dire, toute la saison. Ça démarre le 14 octobre, ça se termine le 20 juin avec pas moins de 6 spectacles différents. Le 14 mai, j'ai lu le programme, Marie-Agnès Gillot, mais j'avoue que j'ai rien compris. Marie-Agnès Gillot rejoint l'ensemble Mathéus et Jean-Christophe Spinozzi. Qui dirigera l'orchestre? Qui dansera? Les deux questions sont dans le programme, donc j'ai rien compris. Racontez-nous, répondez-y s'il vous plaît.
En fait... Jean-Christophe m'a proposé une liste, mais j'avais vraiment envie en fait de diriger un orchestre avec mon corps. Et donc on a choisi des morceaux ensemble. Là on s'est pas revus, donc je peux pas vous en dire plus. Mais comme Nourieff l'avait fait, il avait dirigé un orchestre. Moi je veux pas diriger un orchestre avec une baguette.
Ouais.
Je veux diriger un orchestre avec mon corps en fait. Vous avez déjà vu aussi Bernstein diriger avec les yeux, juste. Enfin je suis pas au niveau de Bernstein, mais ouais. J'aimerais bien faire quelque chose de nouveau, en fait.
En danse, je pense que vous êtes au niveau de Bernstein, je m'avance. Le 21 juin, c'est la fête de la musique, mais la veille, le 20 juin, vous proposez Fête de la danse, Fête, F-A-I-T-E-S, c'est de l'impératif. Les gens vont venir danser, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, j'avais envie de créer, en fait, la veille... Enfin non, maintenant c'est le lendemain, parce qu'au début c'était le 20, maintenant c'est le 22.
Ah mince.
C'est ça, non? Ouais. La fête de la musique.
Non, moi dans mon dossier de presse, c'était le 20, mais donc c'est le 22.
Ah oui, donc c'est le 20, donc c'est la veille.
Bon.
On a changé deux fois, donc je ne sais plus. Et c'est fête de la danse, F-A-I-T-E-S. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire
c'est ce
qu'il faut bouger, quoi. Il faut bouger pour faire partie, et je pensais que ça serait vraiment une grande entreprise familiale. On peut venir de 7 à 77 ans, toutes les danses vont y passer.
Je veux dire ce qu'il y aura, des cours publics, des performances, des démonstrations, des barres géantes, et non pas un bar géant, la barre géante pour faire de la barre.
Ouais.
Du classique, du folklore, toutes les danses, un marathon de danse, et ça va se terminer par un karaoké suivi d'une disco party géante.
Voilà.
En dehors de votre boulot, vous aimez danser?
Oui, j'adore.
C'est vrai?
J'aime que ça.
Ah oui?
Je ne suis pas danseuse pour rien.
Non, non, mais je veux dire le sens de ma question. Il y a des cuisiniers qui, en dehors de leur boulot, détestent faire la cuisine, qui se font des coquillettes au beurre, justement parce que ça leur rappelle trop le boulot. Et il y a des danseuses qui n'aiment pas danser. Ou des footballeurs qui n'aiment pas jouer au foot avec leurs copains. Et vous, vous aimez danser. Mais il y a des danseuses qui vont en boîte de nuit pour danser sur de la musique qui fait transpirer.
Oui, mais après, c'est pareil. On a tous le même problème. C'est que dès qu'on commence à apparaître comme ça, comme on a un certain niveau, ça se voit, quoi. Donc, tout le monde nous regarde, quoi.
Ah oui.
Donc, oui, c'est vrai qu'on n'aime pas trop danser, mais... On aime toujours danser, en fait.
Pour qui ne vous connaît pas, je vais lire les intertitres de l'article que le magazine Elle vous avait consacré. Vous avez fait une journée avec Marie-Agnès Gillot et je lis juste les titres. J'ai des bras de singe, j'ai des jambes de sauterelle, je bois du vin et je fume. Tout ça pour dire que vous n'êtes pas comme les autres.
Oh si, je pense, en fait.
Ah bon? Vous pensez que toutes les danseuses ont des bras de singe et des jambes de sauterelle?
Ah non, ça non.
Ah voilà, ça c'est vous.
Ça c'est moi.
En plus, vous avez une histoire très particulière. Vous avez été remarquée très tôt. Vous êtes entrée à 9 ans à l'Opéra de Paris. Mais également très tôt, on a détecté une scoliose chez vous. Ce qui fait que vous avez eu recours à un artifice, un corset. C'est ça?
Oui.
Mais j'arrive pas à croire que ce soit vrai. Donc vous portiez le corset, si je suis bien informée, de 12 à 18 ans, sans jamais le dire à personne?
Oui.
Pendant combien de temps? Dans la journée?
21h. Je l'ai enlevé que les deux heures de cours. On a les cours classiques, c'est une heure et demie. Donc j'ai enlevé deux fois mon corset, deux fois une heure et demie, trois heures.
Vous avez vécu des douleurs atroces. Et je lus, sans parler de l'esprit de compète avec les concurrentes que vous décrivez comme méchantes. Et je me suis dit, mais c'est complètement fou. Si un footballeur devait subir ce que vous avez subi...
Il ne pourrait pas, le pauvre, je pense.
En dehors du fait même qu'il ne pourrait pas.
Désolée.
Il y aurait des articles dans toute la presse pour dénoncer un système cruel.
Ouais. Non, je pense que...
Comment se fait-il que dans le milieu de la danse, on tolère pareille violence?
C'est pas du tout le même mental. Hein, parce que le mental d'un athlète qui joue en équipe, je pense que ses copains et puis ses complices vont lui donner la chance d'exceller.
Ouais.
En danse, c'est l'inverse. C'est juste, il faut exceller par soi-même. On va pas vous aider.
Vous avez dit une question juste comme ça pour les gens qui veulent mettre leurs petits enfants à la danse. Le Figaro Magdan vous demande ce que vous détestez chez les autres. Votre réponse, la malhonnêteté. Il y a beaucoup de truands dans ce milieu.
Ouais, je trouve que la danse commence à être feintée et que les danseurs commencent à tricher, alors que la grande beauté, en fait, c'est de rester dans l'ancestralité et de faire... le chemin va être plus long, mais la simplicité et l'honnêteté, ça paye plus, en fait.
J'aime beaucoup ce mot, ça sera le mot de la fin, l'ancestralité, c'est très très joli. Merci beaucoup Marie-Agnès Gillot d'avoir été avec nous. Vous
Merci
connaissez
vous.
Le petit son?
Bah oui.
Dites
moineau.
Une petite ambiance de moineau.
de Nicolas Souvent, notre réalisateur. Merci beaucoup. Vous serez sur la scène musicale pour 6 soirées exceptionnelles jusqu'au 20 juin. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été ici, tous et toutes, dans Culture Média. Nous, on se retrouve lundi à 9h. Nous serons avec Muriel Robin et le romancier Gilles Legardinier. Bon week-end, à lundi. Salut Céline.
À lundi, Philippe Vandel. Dans un instant, Anne Roumanoff arrive sur Europe 1 avec toute sa bande et ses invités. Aujourd'hui, c'est Yann Kefelec et Anne Sylar.